Trainville PM. Politique.
Il n'y en aura pas. C'est clair.
Et est-ce qu'il y a des raisons?
Bon, écoutez, je pense pas qu'il y ait de l'islamophobie au Québec. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait une journée consacrée à l'islamophobie.
Malheureusement, comme dans toutes les sociétés, ça existe. Et je crois que le fait de l'ignorer indique quand même que le premier ministre semble avoir un problème avec ces questions. Je ne comprends pas pourquoi il s'entête. Et moi, je l'invite encore une fois à se rétracter.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'était Pierre Arcan, le chef de l'opposition officielle libérale à Québec, juste avant François Legault qui disait « il n'y en aura pas de journée sur l'islamophobie » parce que, a-t-il dit, il n'y en a pas d'islamophobie au Québec. Paul Journet, éditorialiste à La Presse, bonjour.
Salut.
Carl Bélanger, consultant stratège, bonjour Carl.
Bonjour.
Paul, on y va avec ça, l'islamophobie. Là, il y a eu des précisions qui ont été apportées quand même par le cabinet du premier ministre Legault. Tu veux nous en faire part, s'il vous plaît?
Oui, aujourd'hui, son cabinet dit que, en fait, ce que M. Legault essayait de dire, c'est que, certes, il y a des gens qui peuvent être islamophobes, mais il n'y a pas de courant islamophobe au Québec. Il rappelle aussi que mercredi, M. Legault a reconnu que la laïcité au Québec sert de paravent, parfois, pour des propos racistes, que c'est un débat qui permet de libérer une parole raciste et que si on considère sa déclaration de mercredi, elle permet de contextualiser celle de jeudi. Mais écoute, moi, je trouve, qu'on se perd dans les fleurs du tapis là-dedans. Là.
Tu trouves?
Ben, que François Legault...
Moi, je
suis découragé par sa déclaration.
Ah, ben OK.
Oui, c'est ça. Écoute, c'est vrai que c'est pas forcément parce que tu critiques une religion que c'est un propos haineux. C'est vrai aussi que le terme islamophobie a été détourné par le collectif d'Adil Sharkawi. Mm-hmm. Mais il faut quand même dire que l'islamophobie, ça existe. Écoute, quoi l'islamophobie? Oui. C'est une espèce de peur obsessionnelle, irrationnelle, hystérique, comme si les musulmans étaient en train de nous envahir. Ça existe dans le discours de la meute. Ça existe dans le discours de l'homme qui a été arrêté hier pour ses propos, entre autres, sur le tueur de la mosquée. Ouais. Ça existe dans l'attentat même qui a été fait à la mosquée. Et c'est la semaine de la commémoration de l'attentat à la mosquée que François Legault dit ça. Puis moi, je trouve qu'il y a des conséquences graves quand un premier ministre refuse de reconnaître l'existence de l'islamophobie parce que c'est comme si ça envoyait un message à tous les fêlés. Et il y en a pas mal en se disant « Ah, ben c'est correct ce qu'on dit, nous autres, si on est en train de dire que les Québécois se font envahir par les musulmans, ben c'est pas islamophobe. »
Je suis d'accord avec toi. C'est une erreur, cette déclaration de Legault. Puis il aurait très bien pu dire « Il y a des islamophobes. » Moi, j'utilise souvent le terme « Il y a des anti-musulmans au Québec. » Puis il y en a en masse quand on regarde les réseaux sociaux. Mm-hmm. Et il aurait pu dire « Mais par contre, le Québec n'est pas islamophobe. » Oui, la société n'est pas islamophobe, mais il y a des individus, des personnes qui le sont. Puis fin du débat.
Je veux bien, mais il y a une espèce de... On est en train de détourner le débat. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit que l'islamophobie existe au Québec, on dit « Ouais, mais attention, le Québec, on n'est pas raciste. Le Québec, on n'est pas islamophobe. » Mais depuis quand est-ce que le critère ou l'objectif, c'est de se retrouver en quelque part dans la médiane des sociétés racistes? On s'en fout. On n'est pas là pour comparer si on est meilleur ou moins pire que les autres. Quand il y a des propos
Acceptables, Paul, la raison pour laquelle on sent souvent le besoin de rajouter, c'est qu'effectivement, il y a eu du monde qui se sont levés pour dire que, notamment, qu'il y avait un problème de racisme systémique au Québec. Ça veut dire que tu as un problème de système raciste ou que le racisme est érigé en système au Québec. On l'a-tu assez mangé sa tronche, cette affaire-là? Alors,
les deux débats s'entremêlent, mais ils demeurent distincts, le racisme systémique et l'islamophobie. Là, c'est pas tout à fait la même chose.
Je dois dire là, que quand le premier ministre Legault ou son cabinet émet une clarification et qu'il dit qu'il n'y a pas de courant islamophobe, écoute, Paul a parlé de la meute, mais on peut en nommer d'autres. Tu vas te promener sur Facebook, Atalante, la Fédération des Québécois de souche, Front patriotique du Québec, les soldats d'Odin, Storm Alliance, je veux dire, tu vas là-dessus, puis courant, ils vendent fort.
C'est des islamophobes, mais de là... Ouais, ben là, t'as peu. Faut faire attention, là. Y a-tu un problème de... Y a-tu une culture... islamophobe au Québec, Carl? Y a-tu une culture?
Est-ce qu'il y a une culture? Y a des gens qui ont cette culture et qui cultivent ce sentiment? Absolument. Est-ce qu'il y a une culture islamophobe au Québec?
Au sens
dans le fond,
de...
non. Mais il y a des gens qui cultivent cette peur de l'autre. Il y a des gens qui le font systématiquement. Mais est-ce que c'est la société en général qui en souffre? Je ne pense pas.
Bon, en tout cas, ils ont émis la précision. Hein, c'est le cabinet du premier ministre qui l'a émis. Je vais citer les mots exacts là de ce qui a été transmis par le cabinet du premier ministre Legault. Il n'y a pas de courant ni de culture d'islamophobie au Québec. Les Québécois sont ouverts et tolérants et continueront de l'être. Malheureusement, trop d'actes racistes surviennent encore aujourd'hui dans notre société. Il faut tout faire pour dénoncer et combattre la haine et l'intolérance. Nous continuerons d'honorer la mémoire des 6 victimes de la tragédie de la mosquée de Québec et chaque 29 janvier, c'est un devoir de mémoire important. Fin de la citation, donc, en provenance du cabinet du premier ministre Legault. S'il avait dit ça hier, on ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui?
Je suis assez d'accord avec toi. À tout le moins, pas de la même façon.
Oui, bon. Puis moi, j'ai mieux aimé ses propos de mercredi que de jeudi, comme je te l'ai dit tantôt.
Oui, oui. Cette déclaration-là de François Legault a fait réagir le fédéral, Bernard.
Ah ben oui, vas-y, Carl, bien sûr.
Il y a François-Philippe Champagne qui s'est fait interroger là-dessus, et on peut l'écouter, là, on marche assez sur des œufs, mais on veut quand même tenter de dénoncer. Écoute ce qu'il avait à dire.
Je pense que ce qu'on doit faire comme Québécois, comme Québécoise, c'est vraiment de s'exprimer contre toute forme de discrimination. Comment on choisit les mots, ça appartient à l'un et à l'autre. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de lancer un message, de nier qu'il y a un travail à faire. Pour moi, c'est de ne pas respecter ce qu'on a vu comme tragédie.
Ouais, OK.
On choisit les mots, hein. On est très prudent. On ne veut pas s'attaquer à François Legault là-dessus.
Non, non, non. Qu'est-ce que tu veux? C'est un dossier très, très délicat. Puis ils veulent faire attention hein, au fédéral avec les élections. Ils voient bien que Legault reste très, très populaire après cette élection du 1er octobre. Donc, ils veulent pas le bardasser trop, trop. En même temps, ils veulent s'inscrire dans le débat. Parle-nous un petit peu, Paul, de cette annonce de Lionel Carman concernant le dépistage précoce. C'est passé un petit peu dans le beurre à cause de la controverse autour du ministre de l'Agriculture, là. Mais c'est une belle annonce.
Oui, t'as raison. Au-delà des controverses, il y a des choses qui se passent. Écoute, ce qu'on a annoncé, deux choses. L'embauche de 800 spécialistes en dépistage et en intervention pour les troubles d'apprentissage chez les tout-petits et aussi une plateforme web. Les deux devraient être créés d'ici 2 ans. Ça va être des dépenses récurrentes de 70 à 90 millions. En gros, la logique, c'est que tu vas avoir un site web et si tu es un parent, un éducateur et tu soupçonnes que l'enfant a un problème d'apprentissage, ben, tu as un endroit où tu vas, tu remplis le formulaire et tu peux avoir une référence. Donc, ça devrait être plus rapide. Et tout ça, ça s'inspire d'un projet sur lequel Lionel Carman travaillait lorsqu'il était médecin à l'hôpital Sainte-Justine. On pense régler ou en tout cas atténuer 3 problèmes. Le premier, c'est que tu es toujours en tant que parent en train de te battre pour avoir un diagnostic. Le deuxième, c'est que tu as un manque de ressources pour intervenir. Puis le troisième, c'est le manque total de coordination entre 3 ministères, ceux de la famille, de l'éducation et de la santé. Mm-hmm. Chacun a son propre dossier. Les dossiers ne se partagent pas. Donc, c'est le bordel. Mais bien sûr, demeure un gros problème. Comment on va faire pour les engager, ce monde-là?
C'est une chose d'annoncer
que tu vas les engager, mais dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, va-t-on réussir? Mais à tout le moins, écoute, c'est un bon premier pas, cette annonce.
Très bien.
C'est une belle initiative. Il faut applaudir ce geste-là du gouvernement caquiste parce qu'il y a un gros besoin, là.
Carl, parle-nous d'une autre initiative en santé, en matière de santé. Selon Reuters, le gouvernement Trudeau va proposer dans son budget du printemps d'élargir la couverture publique pour les médicaments sur ordonnance, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ça serait un élément clé de la plateforme libérale. On présenterait ça dans le budget. Le gouvernement n'assumerait pas 100% du coût des médicaments d'ordonnance pour ceux qui n'ont pas d'assurance, par exemple au travail, mais ils iraient pour couvrir plus que maintenant et aider les provinces qui ont un programme à le faire.
Donc, ça veut-tu dire ça que le Québec, qui a déjà une assurance médicaments très généreuse par rapport à ce qui se passe ailleurs, obtiendrait du fédéral, un remboursement pour une partie des frais du régime public?
Il faudrait voir s'il y a la fameuse clause d'opting out avec compensation pour le Québec. D'après moi, ça sera fait. Mais il faut comprendre aussi que les libéraux, ils demeurent quand même à l'écoute de l'industrie. Hein. Le comité de la santé, l'an dernier, avait proposé un régime qui allait beaucoup plus loin. Et là, au niveau politique, le NPD, lui, voulait que ça soit un élément fort de sa plateforme. Il avait peur que le Parti libéral aille à 100% avec un programme qui couvrirait l'ensemble des médicaments d'ordonnance, ça ne sera pas le cas. Donc, ça laisse un peu d'espace pour le NPD. On soupire de soulagement de ce côté-là.
OK. Parle-nous d'un autre dossier, le fameux pipeline de Trans Mountain. On aurait payé cher pour l'avoir, pour l'acheter? Luc Lavoie nous en a parlé un petit peu hier. Hein?
1 milliard de trop. C'est le directeur du budget qui a évalué la valeur du Trans Mountain entre 3,6 et 4,6 milliards. Le fédéral a payé en haut de l'échelle 4,5. Évidemment, ça fait des vagues aux communes. On a un échange ici entre Guy Caron et Bill Morneau.
Le secteur parlementaire du budget nous confirme que les libéraux ont surpayé pour acquérir l'oléoduc Trans Mountain, un beau cadeau d'un milliard de la part des contribuables. Quand est-ce qu'ils vont comprendre que quand on atteint le fond d'un trou, c'est le temps d'arrêter de creuser?
Le député n'est pas correct. Nous avons acheté le pipeline et c'était quelque chose de très bon pour notre économie, mais en même temps, c'était un projet qui est bon au niveau commercial.
Eh, hey, boboy! J'espère qu'il ne croit pas ce qu'il dit, lui-là. Là.
Ben, si c'est très bon au niveau commercial, il faut que ça se produise, ce pipeline-là, parce que la valeur qui a été mise en place ou évaluée par le directeur du budget, c'est si le pipeline se construit dans les temps et dans les budgets. Et si l'expansion n'a pas lieu, des pertes de 2,4 milliards de dollars avec un actif qui vaudrait juste 2 milliards. Fait que c'est beaucoup de sous. C'est un gros risque,
exactement. En 30 secondes, mon ami Paul Journet, parle-nous des bons résultats en emploi à Montréal. La mairesse Plante est très contente de ça.
Mais oui, on tripe sur les bonnes nouvelles. Écoute, bonne et mauvaise nouvelle pour le bilan de l'emploi. Mauvaise nouvelle pour l'ensemble du Québec. Après 3 bonnes années, on a été neutre dans la création d'emplois en 2018. Bonne nouvelle, à Montréal, ça va bien. Entre autres parce que la population y vieillit moins vite à cause de l'immigration. 85% des emplois créés au Québec, l'année dernière, ont été créés à Montréal. Sans Montréal, on aurait une perte nette d'économie. Donc, Valérie Plante a des arguments. Quand l'économie de Montréal va bien, celle de tout le Québec se porte mieux.
Ah oui, ça y fait une bonne nouvelle pour finir sa semaine. Paul Journet, éditorialiste, Carl Bélanger, consultant stratège. Merci à vous deux. Bonne fin de semaine.
Bye bye.
On continue deuxième heure dans un instant.